Frères et sœurs, chers amis, vous l'aurez bien sûr tous remarqué, c'est assez rarement le cas. Ce dimanche, il y a un point commun aux quatre textes bibliques de la liturgie. Et quel est ce point commun, Fastoche? La place des non-juifs dans le salut de Dieu. Je le prouve. Première lecture, le prophète Isaïe. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Car ma maison de prière, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Le psaume. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Saint Paul aux chrétiens de Rome. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Enfin l'Évangile. Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: prends pitié de moi, Seigneur. Reconnaissons-le, nous baignons tellement dans notre brave christianisme bimillénaire qu'il nous est bon de nous rappeler de temps à autre d'où nous venons au juste. Comment l'Église s'est-elle constituée et formée? Eh bien, nous pensons tous les uns et les autres spontanément à Simon-Pierre, Jacques, Jean, Marie-Madeleine, Marthe, et les autres, tous les autres que Jésus appela ou qui le suivirent sur les routes de Galilée et de Judée. Sans oublier ceux qui le rejetaient d'abord, lui puis ses disciples, mais qui finirent quand même par rejoindre la communauté chrétienne. Alors, le personnage le plus emblématique de cette situation, c'est bien entendu Paul. Merci, bonne réponse à gauche. Mais est-ce bien tout? Est-ce bien tout? Et toutes ces femmes et tous ces hommes juifs, eux aussi, qui ne reconnurent jamais Jésus de Nazareth comme le Messie d'Israël. Tous ces chefs de synagogue, tous ces scribes et pharisiens qui rejetèrent les premiers chrétiens, leurs frères et sœurs de sang, jusqu'à les expulser des synagogues à la fin du premier siècle. Il nous est bon d'entendre Paul, l'ex-Shaoul, Saul, nous rappeler ceci: je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, car nous venons des nations païennes. Du moins, je présume, 99,9% d'entre vous ici présents. Et j'en suis. Mais si les premiers disciples du Christ Jésus avaient choisi de se recruter uniquement entre membres de leur peuple, entre fils et filles d'Israël, je présume qu'il n'y aurait aujourd'hui, au début du XXIe siècle de l'ère chrétienne sur Terre, sans doute guère plus de chrétiens qu'il n'y a de frères et sœurs juifs. Et de même, la plupart habitant en Palestine et les autres disséminés ça et là dans quelques métropoles comme New York, Londres et Paris. Je suis désolé, je ne classe pas Le Mans parmi les métropoles du monde. La religion chrétienne s'est développée parce que ses premiers adeptes se sont tournés aussi vers les étrangers, donc des non-juifs, pour puis de plus en plus. Et parce que les étrangers qui ont reconnu Jésus comme le Messie ont à leur tour évangélisé les membres de leur peuple respectif. Ainsi, de siècle en siècle, l'Église n'a plus été constituée à 99,9% que de descendants de païens, au point d'oublier ses racines juives. Oui, au point en effet que, l'anecdote me semble assez impressionnante, j'espère qu'elle n'est pas applicable à nos jours, au point que dans les beaux salons parisiens de la fin du 19e siècle, on s'offusquait de s'entendre dire par un converti, l'écrivain Léon Blois, que Jésus était juif. Mon Dieu, quel scandale! Et sa mère aussi, voyez-vous ça? Le témoignage de saint Paul nous est donc d'autant plus précieux. En effet, loin de s'être résigné à ce rejet massif de Jésus par ses frères et sœurs de sang et de religion, à commencer par les chefs religieux, Paul conserve en lui l'espérance que le premier peuple élu se laissera un jour illuminer, comme il l'a été lui-même sur la route de Damas. Car Dieu ne saurait renier ses promesses. Voilà pourquoi Paul déclare « Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. » C'est-à-dire qu'il va de l'avant auprès des païens et qu'il leur annonce à eux aussi la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais, car il y a un « mais », puisqu'il ajoute aussitôt « mais c'est dans l'espoir » de rendre jaloux, au sens positif du terme, mes frères selon la chair, et d'en sauver quelques-uns. Nous en venons ainsi à la question inévitable, car jamais Paul ne s'est pris pour le fondateur d'une religion. Et Jésus lui-même, Jésus, qu'en pensait-il de tout ça? Avait-il, comme Paul, une stratégie de com? Avait-il une méthode de marché vis-à-vis des non-juifs? L'épisode de la scène avec la Cananéenne est très éclairant et très réjouissant. Nous savons que Jésus a rencontré des païens à l'intérieur même du périmètre géographique que nous appelons Terre Sainte. Par exemple, très célèbre, le centurion romain. Pas juif du tout, les Romains se gardaient bien d'incorporer dans leurs troupes des juifs. Trop dangereux. Mais ici, Jésus s'est retiré volontairement dans une région extérieure à Israël, qui correspond à ce qu'on appelle le sud du Liban, Saïda, Tyr. Et là, il n'y a que des païens. Et je vous mets au défi de me citer un seul des prophètes juifs dans l'Ancien Testament qui se soit aventuré dans ces parages pour y appeler ses habitants à la conversion au vrai Dieu. Jésus aurait-il, lui, le projet de le faire? Pas du tout, apparemment. Il vient là prendre quelques jours de RTT pour se reposer des fatigues de la prédication et des guérisons. Aussi, quand une femme du pays vient le supplier d'intervenir en faveur de sa fille, il ne lui répondit pas un mot. Elle s'était pourtant adressée à lui en l'appelant « fils de David ». Un titre de gloire clairement juif qui dénotait sa sympathie à elle pour le peuple d'Israël. Mais non, pas un mot. Devant pareil mutisme, s'est-elle alors résignée à rentrer chez elle? Pas du tout. Elle continue à supplier, le verbe est à l'imparfait, au point de casser les oreilles des disciples de Jésus. Or, eux aussi, profitant des RTT du chef, se croyaient en RTT. Ils vont donc trouver Jésus. Renvoie-la, car il nous poursuit de ses cris. Jésus prend alors la parole pour s'expliquer à ses disciples. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, autrement dit à mes frères et sœurs juifs. Va-t-elle enfin comprendre qu'il est inutile d'insister. Et faute de mieux, va-t-elle se tourner vers d'autres guérisseurs, ceux de sa religion à elle, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait sans aucun succès pour sa fille? Pas du tout. Elle vient carrément se prosterner aux pieds de l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth et lui lancer « Seigneur, viens à mon secours. » L'heure du face-à-face est venue et Jésus ne s'y dérobe plus. Il répond à la femme, les yeux dans les yeux, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Sur le fond, cela revient à dire ce qu'il venait de déclarer à ses disciples. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette fois, il se place du côté de la réclamatrice et avec un langage imagé que je trouve plutôt savoureux. Le pain des enfants, qu'est-ce que ça désigne, le pain des enfants? Ici, dans la bouche de Jésus, ça désigne tout simplement la parole et l'amour divin destiné par Dieu à ses filles et fils chéris, les membres du peuple juif. Par contraste, et grâce à l'adjectif « petit » qui est très important ici, « les petits chiens » n'est pas du tout une désignation méprisante. « Chien » l'aurait été. « Les petits chiens » désignent au fond tous les non-juifs, les étrangers. Et observons aussi que Jésus met en garde. Il n'est pas bien de prendre ici. C'est donc priver un groupe d'une part de ce qui lui est réservé exclusivement. Et que dire de jeter ? A-t-il le droit, lui, le fils de David, de se débarrasser ainsi de ce qu'il y a de plus précieux, du trésor promis et réservé à un seul peuple élu, le sien ? À Dieu ne plaise ! Là, pour le coup, voilà une très claire fin de non-recevoir. Poli, bien tourné, mais une fin de recevoir sans réplique possible. Eh bien non, pourtant. La femme cananéenne, l'étrangère, ne se tient pas pour battue. Elle relève la tête et elle rétorque. Oui Seigneur, tu as raison. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Justement, c'est-à-dire les petits chiens ne prétendent pas à ce que leur maître leur donne de leur main la nourriture qui est réservée aux humains, même pas en la leur jetant. La preuve, les petits chiens se contentent d'attendre que quelques miettes tombent de la table, car ils savent que leur maître ne leur refuseront pas ces quelques miettes tombées par terre. Alors, quelle a été ici la réaction de Jésus à cette réplique sûrement inattendu. Nous avons ses propres paroles, bien sûr. Mais je suis sûr qu'il y a d'abord eu la surprise de Jésus et des autres juifs présents. Et quelle a été cette surprise? Je vous la donne en mille. Je ne pense pas me tromper. Un magnifique éclat de rire général. Ah, bien vu, bien trouvé. Et alors, il n'y a plus moyen de résister à une telle obstination douce, humble et tellement futée de cette femme. Jésus ne peut que lui répondre, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Notons bien, « Grande, comme tu le veux. » Jésus était bien d'accord, mesdames, avec le célèbre proverbe, « Ce que femme veut, Dieu le veut. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors même, sur le champ. Eh bien, cela nous ramène directement et en conclusion à saint Paul. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Cette fin, même de quelques miettes du salut promis à Israël de la part d'une étrangère, étrangère a priori à ce salut, Jésus l'offre en exemple à ses frères et sœurs juifs. Eh bien, nous-mêmes, partageons-nous en retour l'espérance de Paul que tout le premier Israël historique un jour reconnaîtra ultimement en Yeshua, Jésus de Nazareth, le Messie promis au peuple juif par le Seigneur lui-même. Et ici, ne nous trompons pas de mots. Sur la route de Damas, Saul de Tarse a vécu une illumination. Il a reconnu enfin de ses yeux de la foi en Jésus, le Messie qu'il attendait, donc l'accomplissement des Écritures. Quand une femme ou un homme juif deviennent chrétiens, le mot « conversion » est donc totalement inapproprié. Nous ne devons employer ce terme que dans deux situations précises. Quand une personne adepte d'une autre religion, ou bien sans aucune religion, adhère à la religion chrétienne. Alors elle reconnaît bien par sa foi au Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et tous les autres, l'unique vraie religion accomplie en Jésus-Christ. Et lorsqu'en 1942, à Orléans, Jean-Marie Aaron Lustiger, les anciens savent qui il était, je pense, demanda et reçut le baptême, comme il n'a cessé de l'expliquer ensuite, devenu prêtre, puis archevêque de Paris et cardinal, il n'a pas rejeté une religion fausse pour la seule vraie, il a reconnu dans la foi chrétienne l'accomplissement de la promesse du Seigneur, Dieu d'Israël, au peuple juif. Et second emploi, juste du mot conversion, c'est quand, du sein de sa propre religion, un adepte vit une réactivation de sa foi, une nouvelle ferveur. Cela vaut donc aussi des conversions intimes auxquelles nous sommes appelés, nous catholiques, pendant notre vie. Eh bien, accueillons ces conversions de nos cœurs et prions pour que, à l'exemple de cette maman étrangère, effutée, nous osions laisser grandir notre foi en Jésus, Sauveur du monde. Amen.